Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 605 du podcast Touchdown Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour débriefer un petit peu la Free Agency NFL. On se retrouve pour une série de 8 épisodes spécialement dédiés au débrief de la Free Agency. À mes côtés pour commencer, Lucas Vola. Bonjour Lucas.
Salut Alain, j'ai pris mon cahier de liaison, mon cahier de correspondance, tous mes bulletins, je sais pas si c'est nous qu'on va se juger nous-mêmes ou pas, j'ai tout pris, je suis prêt.
C'est ça, on est prêt à juger, tu donnes un peu d'avance en effet, mais j'allais expliquer qu'on va donner des appréciations de conseils de classe. D'ailleurs, je me rappelle déjà plus de ce qu'on a dit parce qu'on a longuement débattu avant l'émission pour savoir ce qu'on allait mettre. Félicitations, compliments,
encouragement,
passable, mauvais, blâme. Bon.
Exactement.
Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, je sais pas comment on va se retrouver dans tout ça. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël.
Salut messieurs, salut à tous.
Ça va bien Raphaël, après cette petite pause?
Ça va.
Je dis petite pause parce qu'on se voit moins souvent que la team draft. En plus là vous êtes à c'est deux vrai. Épisodes par jour hein, si vous nous écoutez, parce qu'il y a un épisode draft et un épisode free agency, puisque donc je vous le redis, 8 épisodes, ça veut dire qu'on va décomposer en fait par division. Vous aurez 4 épisodes sur la semaine du 3 avril au 7 avril et la semaine suivante 4 épisodes supplémentaires pour la conférence AFC. On va commencer nous par la conférence NFC messieurs, et on va pas tarder d'ailleurs à rentrer dans le vif du sujet. Première division au menu, la NFC Est. C'est la division des Philadelphia Eagles, notamment finaliste du dernier Super Bowl. Messieurs, on a quand même largement joué la continuité du côté de Philadelphie. Vous allez voir que c'est plutôt un thème hein, dans cette division. Beaucoup de départs en défense notamment. On va commencer par les départs. Tiens, allez, Garner Minshew, Miles Sanders, Zach Pascal, André Dillard, Isaac Seumalo, ça c'est pour l'attaque. Javon Hargrave, TJ Edwards, Kazir White, Johnson Garner Johnson, Marcus Epps, ça c'est pour la défense. Du côté des arrivées ou des signatures, Marcus Mariota, Rashad Penny, Boston Scott, Jason Kelsey en attaque, Fletcher Cox, Brandon Graham, Kentavious Street, Nicolas Moreau, James Bradbury, Darius Slay, Greedy Williams, Terrell Edmonds et Justin Evans en défense. On va commencer par la défense peut-être messieurs, parce que c'est là qu'il y a eu le plus de turnover. On l'a dit, la grosse perte c'est Javon Hargrave notamment, ça perd aussi du côté de Kazir White, le linebacker qui était un des hommes de l'ombre assez discret mais efficace. Est-ce que ce front seven ressort assez affaibli pardon de l'intersaison Raphaël?
Oui, il ressort un petit peu assez affaibli, notamment je trouve par la perte de Javon Hargrave. Voilà, ils perdent en qualité, ils perdent en rotation, parce que c'était quand même un des gros points forts des Eagles hein, l'an dernier, avoir une bonne dizaine de joueurs sur le front 7 et notamment 5-6 sur la ligne défensive qu'ils pouvaient faire tourner en permanence pour ne jamais trop fatiguer tout le monde. Et c'est ce qui leur a permis d'avoir, de mémoire, c'était 5 joueurs au-dessus de 10 sacs l'an dernier. Donc tu perds un peu de ce côté-là en rotation. Maintenant, on sait aussi que Howie Roseman, le general manager, aime drafter sur les lignes, aime construire ses équipes par là. Donc, j'ai envie de lui laisser un peu le bénéfice du doute sur sa capacité à rapidement trouver du sang neuf à la draft, notamment pour aller améliorer ça. Ils ont fait venir des Saints déjà sur la ligne défensive. Bon, c'est pas du niveau de Devon Hargrave, hein, mais bon, ça perd en efficacité, en rotation, mais je crois pas que le gap soit énorme non plus.
On rappelle qu'ils ont cumulé 70 sacs la saison dernière, c'était leur énorme force, ils étaient 15 sacs de plus que la deuxième équipe dans le domaine. Donc pour l'instant, c'est clairement l'inconnu de l'intersaison. Lucas, est-ce que tu es d'accord? Ça a perdu un petit peu, mais c'est pas encore dramatique.
Oui, alors après, puisqu'on gère et on doit un petit peu juger de ce qui a été fait, certes, ils perdent Javon Hargreaves, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Ils n'avaient pas le choix, on l'a vu, il est parti pour un gros contrat du côté des 49ers. Ils avaient beaucoup d'agents libres à cette année, notamment en défense. Il fallait un petit peu gérer. Ils ont gardé Graham, ils ont gardé Cox, on parlait de ligne défensive. Donc ça aussi, c'est bien. Certes, peut-être le meilleur joueur ou un des meilleurs ou le joueur avec le plus gros profil est parti. Mais il fallait faire des choix. Et pour le coup, ils ont été obligés de faire certains choix, mais les autres, ils ont été plutôt bons. On a parlé de la défense, on a parlé beaucoup de derrière dans cette défense. Ils ont gardé les deux cornerbacks, ce qui n'était pas gagné non plus parce que Darius Slay devait partir. Il avait même annoncé sa coupe. Finalement, il est resté. Ils ont perdu Garner Johnson, certes, parce que, au même titre que la ligne défensive, il fallait laisser partir certains, mais ils ont gardé leur duo de cornerbacks qui faisait aussi leur force. Donc, c'est un peu plus... Je ne sais même pas si c'est plus faible, mais il y a des départs. Mais au final, je trouve que c'est particulièrement bien géré pour une situation qui n'était pas évidente, malgré le fait qu'ils sont allés au Super Bowl.
Vas-y, Raphaël.
Ouais, je me permets de compléter, mais ils tentent aussi le pari Greedy Williams sur le poste de cornerback, qui est un ancien choix de mémoire premier tour des Browns, qui n'a peut-être pas donné ce que Cleveland espérait. Mais là, un ancien choix du premier tour qui arrive dans une défense... avec un fort front 7 et accompagné de Darius Slay et de Bradbury, tu peux te dire que tu vas réussir à en tirer encore un peu plus que Cleveland. Donc potentiellement, ça peut être aussi un coup de poker pas inintéressant à la fin. Donc je suis d'accord avec Lucas, c'est même pas sûr qu'il se soit vraiment affaibli dans le backfield défensif. Hein.
C'était clairement un des points de tension, on va dire, de l'intersaison. Et je trouve qu'en effet, il limite plutôt bien la casse, parce que c'est vrai que Garner Johnson, bon, il y a Edmonds qui arrive, qui peut être aussi une solution. Greedy Williams, c'est un bon pari. Donc clairement, ils ont très très bien limité la casse de ce côté-là. En attaque, il y a du renouvellement, on l'a dit, mais ça a l'air quand même d'être des choses qui sont un peu plus à la marge. C'était les grandes manœuvres l'an dernier avec AJ Brown, avec des choses comme ça pour entourer Jalen Hurts. Là, on voit pas grand-chose qui risque de déséquilibrer un peu la mécanique, Lucas.
Ah non, déséquilibrer, non. Loin de là même. Moi, j'aime bien Marcus Mariota en remplaçant, en quarterback remplaçant. Certes, au moins on le voit, au mieux les Eagles se porteraient, parce que ça voudrait dire que Jalen Hurts est là toute l'année. Et j'ai rien contre Marcus Mariota. Mais si Jalen Hurts venait à louper un match ou deux, comme ça a pu arriver la saison dernière, je trouve que Mariota est pile dans le jeu de Jalen Hurts. Donc ça veut dire que ça n'obligera pas à changer. Il est bien moins bon, bien entendu, mais ça n'obligera pas à changer le système, et donc du coup forcément un peu plus de productivité pour tout le monde, ou au moins autant. Et puis j'aime bien Rashad Penny aussi, parce que il vient remplacer Miles Sanders numériquement, qui est parti. Rashad Penny, c'est un très bon joueur, il est très très bon. Le problème pour lui, c'est que il est souvent blessé et pas souvent sur le terrain. Mais on le sait, les Eagles, ils jouent avec beaucoup de running back. Le running back principal, c'est Jalen Hurts. Ils tournent, ils font jouer, donc déjà un peu plus de fraîcheur peut-être pour Rashad Penny, à qui on va pas demander autant. Et ensuite, s'il n'était pas là, eh bien, ça serait moins préjudiciable que si une équipe l'avait pris en running back numéro 1 ou 2. Et pour le coup, quand il est là, il est plutôt bon. Donc j'aime beaucoup cette signature.
Le running back principal, c'est Jalen Hurts.
Oui, pour moi, le running back principal, dans le sens où c'est quand même le joueur qui va gagner. Alors, il faudrait regarder les statistiques au sol l'année dernière, mais je suis pas sûr qu'il soit pas si loin du joueur qui gagne le plus de yards au sol, dans le sens où c'est la menace principale à l'image d'un Lamar Jackson. Je veux dire, certes que dans la depth chart, c'est pas il est pas running back,
Mais 1269 yards pour Miles Sanders, 760 pour Jalen Hurts.
Bon, il est loin pour le coup, mais je pense que c'est parce qu'il a cette capacité à être capable il a cette capacité à prendre des yards au sol que l'attaque au sol fonctionne. Pour moi, c'est à l'image d'un Lamar Jackson, je le vois vraiment comme ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit à multiples reprises, pour moi, quand ils ont eu besoin d'aller chercher des yards au sol et que ce soit sur des distances courtes ou un peu plus longues, c'est quand même souvent vers Jalen Hurts qui se sont tournés. Donc pour moi, la menace principale, elle est là, et Miles Sanders, il bénéficie de ça, je pense.
Raphaël, Miles Sanders, je l'ai dit, quasiment 1300 yards, 11 touchdowns qui s'en vont, mais vu le système, et éventuellement, ils peuvent aussi drafter quelqu'un. Hein.
Ouais, c'est ça, vu le système, vu la ligne offensive, je suis pas hyper inquiet sur la capacité de Philadelphie à le remplacer. Rashad Penny, je pense même qu'il a potentiellement plus de talent que Sanders quand il arrive à être en santé sur le terrain. Alors c'est pas tout le temps, mais mine de rien, l'an dernier... Il a réussi à enchaîner quelques matchs quand même du côté de Seattle, l'ami Penny, donc pourquoi pas continuer là-dessus. Écoute, ouais, moi je suis pas tellement inquiet sur le jeu au sol. À la limite, si on veut être un peu tatillon, ils perdent quand même deux linemen offensifs dans la rotation, Isaac Seumalo et André Dillard. Que là aussi, il va falloir remplacer parce qu'on sait une ligne offensive sur la saison. C'est quand même bien d'avoir de la profondeur d'effectif parce que les bobos sont jamais très loin. Bon, on verra, ils ont une partie des remplaçants déjà en interne qu'ils ont drafté l'an dernier, ils risquent de refaire pareil. Et là encore, c'est une spécialité un peu des Eagles de drafter intelligemment sur la ligne offensive. Donc, sur le papier, ils se sont un peu affaiblis en termes de rotation, que ce soit ligne défensive ou ligne offensive, je trouve. Mais je pense que le trou est facilement comblable pour eux.
Allez, on a 6 propositions pour la note de ce que je compte. Félicitations, bon, c'est vraiment stratosphère, ok. Compliment, c'est vous avez bien fait. Encouragement, c'est on encourage. Passable, c'est pas très bon. Mauvais, c'est très mauvais. Et blâme, c'est vraiment le fond du fond.
On retiendra le mauvais, c'est très mauvais.
Ouais.
Moi, je me lance, messieurs, si c'était ta question, Alain, j'anticipe peut-être. Mais pour moi, c'est compliment. C'est compliment pour tout ce qu'on a dit et parce qu'il y a aussi encore 4 choix de draft sur les 3 prochains tours, dont 2 au premier tour, qui ne pouvaient pas faire grand-chose de plus parce qu'il faut aussi laisser de la place à un potentiel gros contrat à Jalen Hurts qui devrait arriver s'il ne veut pas se retrouver éventuellement dans la même situation que Lamar Jackson. Donc, je pense qu'avec ce qu'ils pouvaient faire, ils ont très bien fait. On va pas aller jusqu'aux félicitations parce que ça casse pas des briques non plus, mais compliments, pour moi ça va très bien.
Vendu pour compliments de mon côté aussi.
Ouais, totalement, compliments, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire compte tenu de l'ensemble des paramètres qu'ils avaient cette intersaison, et maintenir la qualité d'un effectif en NFL, c'est presque plus dur finalement quand tu pars de très haut de le maintenir ou voire de l'améliorer, c'est plus dur. Donc moi, il me semble pas plus faible que l'an dernier, donc à partir de là, compliment.
On va du côté de Dallas en attaque. Cooper Rush est re-signé, Ronald Jones est signé, Tony Pollard signe le franchise tag, Brandon Cooks arrive dans un échange. En défense, Dante Fowler est re-signé, Jonathan Hankins aussi, Leighton Van Der Esch aussi, Stephon Gilmore arrive dans un échange et Donovan Wilson est re-signé. Du côté des départs, Ezekiel Elliott, Noah Brown, Dalton Schultz, Connor McGovern, Jason Peters, Carlos Watkins, Anthony Barr, Anthony Brown, Jack McQuaid. Oui, deux longs snappers qui s'en vont c'est triste, et Brett Maher. Du côté donc de Dallas, messieurs, c'est un peu comme Philadelphie, on a l'impression que ça a surtout bougé en défense. C'était déjà une défense top 10 dans la plupart des catégories la saison dernière. Est-ce qu'elle s'est renforcée? Je pense notamment à l'arrivée de Stephon Gilmore. Raphaël a l'air plutôt convaincu.
Ouais, je te rejoins. Je trouve effectivement que Gilmore apporte un vrai plus. On l'a encore vu hein, quand il s'agissait l'an dernier de couvrir en homme à homme. Il a encore été très bon. Donc il apporte une palette de jeux supplémentaire dans la défense des Cowboys. Et j'ai vraiment pas de mal à imaginer Dan Quinn bien l'utiliser pour le coup. J'aime bien aussi sur la ligne défensive Jonathan Hankins. C'est pas un defensive tackle qui fait beaucoup de bruit, mais quand il faut bloquer la course, mettre de la viande au milieu, en général il est bien positionné. Donc je suis d'accord, défensivement ils font le taf, et même offensivement, mais Lucas y reviendra sans doute, je trouve que même offensivement ils ont fait ce qu'il y avait à faire aussi, quoi.
Je trouve que c'est malin par petites touches, en fait. C'est-à-dire que Gilmore et Brandin Cooks, les deux échanges, ont beaucoup de sens, Lucas.
Oui, et puis surtout que c'est pour pas grand-chose non plus, parce que, bon, on récupère ces deux joueurs-là, mais on lâche grand-chose, ça serait peut-être préjudiciable. Là, je crois que c'est 2 5e tours en 2023 et 1 6e tour en 2024, si je me suis bien noté. Pour Brandin Cooks et Stephen Gilmore, Raph l'a dit, Stephen Gilmore, pour Dan Quinn, je pense que c'est du pain béni. En numéro 2, c'est encore très bon. Et Brandin Cooks qui arrive un petit peu de manière similaire en numéro 2 de l'autre côté, c'est très bon, c'est très complémentaire à Sid Hillem qui est plutôt utilisé dans le slot, enfin qui peut jouer partout mais qui peut être très bon à l'intérieur. Brandin Cooks, lui, on le connaît, il est très bon en profondeur. Il fallait un numéro 2, un vrai numéro 2, un bon numéro 2 qui est capable de rester sur le terrain. Brandin Cooks, je pense, l'est, et en effet, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, pour moi, ils se sont améliorés en défense et en attaque, notamment avec ces deux joueurs-là, mais aussi avec quelques noms que Raph a cités et que tu as cité, Alain. C'est plutôt une bonne intersaison du côté de la Free Agency pour l'instant.
On s'inquiète de la perte de Dalton Schultz, qui était à 57 réceptions l'an dernier. Il n'y a pas vraiment de tight end expérimenté solide pour l'instant dans l'effectif. On sait que ça peut venir à la draft, hein, évidemment, on parle de la pré-draft, hein, tout ça, mais ça reste le petit point noir de cette Free Agency, peut-être, la perte de Dalton Schultz, pardon.
Oui, ça peut rester le petit point noir. Il a porté ces deux dernières saisons notamment. Maintenant, à quel point dans le jeu de réception l'apport d'un Brandin Cooks va pouvoir combler, on va dire, cette perte numérique, en tout cas de yards de réception, tu vois, je sais pas. Moi, je trouve aussi bien, mine de rien, on l'a dit vite fait, mais il se débarrasse du lourd contrat d'Ezekiel Elliott. Il donne les clés à Tony Pollard, qui, on a senti, c'est l'an dernier, commencer à prendre vraiment les commandes. Bon, je trouve que tout ça a été globalement bien fait, et j'anticipe un peu. Donc, t'as raison, il y a le côté Schultz qui fait que ça manque peut-être les félicitations, peut-être pas, mais pour moi, c'est compliment à minima.
Juste un dernier mot sur les mouvements dans l'effectif. Ils ont 13 millions de dollars sous le plafond salarial au moment où on enregistre. Est-ce que la rumeur Odell Beckham a toujours de l'intérêt, ou est-ce que Brandin Cooks, ça met fin à cette piste-là? Ce qui me semblerait logique, parce que j'ai l'impression que tu as quand même plus de certitude avec un Brandin Cooks qu'un Odell Beckham, en vrai. Hein, il est moins glamour, mais...
Pour moi, ça ne met pas fin parce que c'est Dallas et parce qu'on sait que Dallas, ils sont capables de faire des choses. Et c'est aussi pour ça, et on donnera nos valeurs après. Mais je trouve qu'ils ont fait une intersaison qui n'est pas une intersaison Dallas. Alors, ils sont allés chercher des trades, mais ils sont allés chercher des choses intelligentes où on voit où ils veulent en venir. Je dis pas que ça.
Qu'il allait dire intelligente. Oui. Ils ont fait une intersaison Dallas qui est pas Dallas. Elle est intelligente.
Ouais, non, c'est pas pour critiquer toutes les intersaisons. Ils font pas que des intersaisons qui ne sont pas intelligentes. Mais c'est vrai que parfois, il y a toujours un ou deux mouvements où on se demande vraiment l'intérêt. Est-ce que c'est pas un intérêt extra-sportif ou, alors que là, l'intérêt, ça marchera ou ça marchera pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais là, on voit un vrai intérêt sportif. La coupe d'Ezekiel Elliott, c'est d'une logique implacable, mais en même temps, c'était Dallas et on se demandait est-ce qu'ils allaient le faire. Ils l'ont fait. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui montre qu'ils vont dans la bonne direction cette année.
Bon, intersaison maligne. Raphaël, tu partais sur des compliments?
Ouais, compliments. On pourrait même pousser, hein, mais compliments à minima.
Pour moi, c'est félicitations, messieurs, parce que il y a cette coupe d'Eliott, il y a pour l'instant Odell Beckham qui n'est pas là, et c'est une bonne chose. Non, mais c'est vrai, c'est pour moi c'est une bonne chose.
On les félicite de pas avoir fait une connerie.
Oui, mais globalement, c'est pour cette équipe-là, pour moi c'est une bonne chose. Dalton Schultz, certes, il est parti, c'était peut-être la seule chose, mais il se dit que la draft des tight ends est l'une des meilleures de ces dernières années, meilleure que les receveurs, et ils ont réglé leur problème de receveurs. Ils pourraient peut-être régler leur problème de tight end à la draft. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ils ont gardé quelques joueurs importants. Je trouve que cette équipe-là, à l'heure actuelle, elle est meilleure que celle de l'année dernière. Et pour moi, ça, du coup, ça mérite les félicitations.
Ouais, je veux bien aller sur les félicitations aussi, au sens où ils ont été bons avec pas grand-chose. C'est quelques coups malins.
Aussi, oui.
Et c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté-là. Alors, soyons fous, félicitations pour Dallas, les premières de ces émissions. On va chez les Giants. Forcément, l'événement, c'était les grosses re-signatures de Daniel Jones et Saquon Barkley. C'est fait. On en avait parlé d'ailleurs dans les premières émissions Free Agency et les gros débriefs. Mais il y a eu du mouvement autour depuis, et beaucoup de mouvements autour. Jones et Barkley, c'est donc re-signé. Matt Breda est re-signé. Et arrive Paris Campbell, Jamison Crowder, Sterling Shepard, Darius Slayton et Darren Waller dans un échange. Tout ça, c'est des cibles pour Daniel Jones. En défense, J. Edward, Rakim Nunez-Roches, Jarrad Davis, Bobby Okereke, Amani Ouwariye, et le punter James Gillian. Du côté des départs, on a perdu Kenny Golladay, Richie James, Marcus Johnson chez les cibles, John Feliciano, Nick Gates sur la ligne, et Ukshan Ximines en défense avec Nick Williams, Jalen Smith, Fabian Moreau, Landon Collins, Tony Jefferson, Julian Love et le long snapper Kazay Kreter. La mission, c'était donc entourer Daniel Jones. Est-ce que c'est rempli, oui ou non?
Numériquement, c'est rempli. Numériquement, c'est rempli. Il y a du monde. Il y a, on le sait, hein, ils ont été un peu obligés de le faire l'année dernière, de avoir un comité de receveurs. On dit souvent ça des running backs. Là, c'est un comité de receveurs. Il n'y avait pas vraiment de numéro 1. J'ai pas l'impression que tu aies cité un vrai numéro 1 dans tous les noms que tu as cités. Il y a Darren Waller. Maintenant, c'est un tight end. On le sait que les tight ends prennent de plus en plus d'espace et Travis Kelce est une cible numéro 1. Est-ce que Darren Waller est capable de le faire et sur la durée d'une saison? C'est pas évident. Et puis, tous les noms que tu as cités, c'est des bons joueurs. Jamison Crowder, c'est un bon joueur. Paris Campbell, ça amène du poids. Mais je vois pas de numéro 1. C'est ce qui peut être inquiétant, en tout cas, dans cet aspect cible.
Disons que c'est mieux.
Ah, c'est mieux.
Que ceux que j'ai cités qui partaient et ceux qui arrivent. Bon, c'est mieux d'avoir Paris Campbell, Jamison Crowder, Sterling Shepard et Darren Waller. C'est pas encore exceptionnel. Et pourtant, je suis président du fan club de Jamison Crowder. Mais voilà. Bon, Kenny Golladay, on rappelle, hein, quand même, signé pour 4 ans et 72 millions. Il est parti après 43 réceptions en 2 ans. C'était pas tout à fait le résultat escompté.
Non, c'était pas le résultat escompté, mais quelque part, c'est à leur honneur d'assumer le dead money, donc l'argent perdu cette saison. Et pour partir sur une situation saine l'an prochain, plutôt que de continuer à le traîner en boulet en espérant que finalement il finisse enfin par donner ce que tu attendais de lui. Voilà, ils ont décidé d'assainir la masse salariale cette année en prenant les pénalités cette année. Moi, je trouve ça intelligent. Et comme vous dites, il n'y a pas de receveur numéro 1, et c'est peut-être ça la déception, mais qualitativement, c'est quand même meilleur, et c'est des cibles plus variées. Paris Campbell, ils n'avaient pas de profil grand athlétique comme ça l'an dernier. Là, ils en ont un. Bon,
Peut-être encore le temps de faire le fou et d'essayer d'être sur le coup pour DeAndre Hopkins s'il est dispo dans un échange.
Là, ça changerait pas mal de choses. Là, on cite des joueurs qui seront autour d'un joueur star, même s'il n'est plus dans la fleur de l'âge totalement. Il est encore extrêmement performant. Il est meilleur que tous les joueurs que tu as cités. Là, c'est vrai que du coup, à la lumière de ça, ça changerait. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas là.
C'est ça. Tu mets Hopkins en tête d'affiche et ces mecs-là autour, ça commence à avoir une
certaine la gueule, ouais.
Mais on n'en est pas là. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu moyen. Daniel Jones sera dans des légèrement meilleures conditions. En défense, j'ai l'impression que c'est assez neutre aussi au niveau de leur free agency. J'ai pas l'impression qu'il y ait des noms qui se détachent, que ce soit dans le sens des départs ou dans le sens des arrivées. Il y a Julian Love qui part du côté des Seahawks.
Bobby Ekereke qui, pour moi, est une très bonne signature sur la ligne des linebackers. Mais c'est vrai qu'ils avaient déjà une défense qui était plutôt très intéressante. Donc, à minima, si elle reste comme elle était l'année dernière, c'est très bon signe.
Raphaël, tu penses qu'ils sont un peu meilleurs ou pas en défense?
Je suis pas sûr qu'ils soient un peu meilleurs. Ouais. Ils sont pas moins bons. C'est déjà ça pris, j'ai envie de te dire. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi, en tout cas. Après, c'était peut-être pas la volonté d'ajouter, lors de la free agency, d'ajouter du talent en défense, mais pour moi, ils ne l'ont pas fait. Bon, après, Jihad Ward n'est pas non plus un mauvais joueur, je trouve. Bon, c'est... Ouais...
Ça sent les encouragements ou le passable?
Ouais, j'irais sur l'encouragement, moi, personnellement, quand même.
Ouais, pareil. Hein, on l'a pas cité, mais il y a une petite perte de qualité, à mon avis, sur la ligne offensive, et notamment à l'intérieur de la ligne offensive. Tu as cité deux, trois noms qui s'en vont. C'est pas remplacé pour l'instant. Donc ça, c'est un petit point d'inquiétude. Après, il y a quand même le on en avait parlé beaucoup, mais la situation entre Saquon Barkley et Daniel Jones, qui a quand même plutôt été bien gérée à la lumière de ce qu'il pouvait faire, parce que Daniel Jones, c'est vrai que c'était compliqué de lui donner un gros contrat, mais bon, il a un tag pour un running back. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré dans la situation dans laquelle ils étaient. C'est quand même un bon signe, ça.
Encouragement donc pour les Giants. On termine avec les Commanders. Encore une intersaison faste, hein, au poste de quarterback, puisque Tyler Heinicke et Carson Wentz s'en vont. place à Jacoby Brissett et on donne la promotion interne à Sam Howell. Du côté des recrutements, donc Jacoby Brissett, je l'ai nommé, Andrew Wiley, Trenton Scott, Nick Gates, Tyler Larsen, c'est sur la ligne offensive. Je vous donne signature et re-signature confondues. Abdullah Anderson, Daron Payne, Efe Obada, Corey Barton, David Mayo, Cameron Danzler et Danny Johnson, ça c'est en défense. Et du côté des départs, je le disais, ils ont perdu Heinicke Evans, JD McKissick aussi, Cam Sims, Wes Fazer, Trey Turner, Nick Martin, et en défense, John Bostic, Cole Holcomb et Bobby McCain. J'ai l'impression qu'on attend la draft du côté de Washington un petit peu, parce qu'en dehors du retour de Daron Payne sur son franchise tag qui a été transformé en contrat à 45 millions garantis, bon, c'est pas, y a beaucoup de mouvements sur la ligne offensive, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe non plus des choses très très significatives du côté de Washington, Raphaël.
Non, effectivement. Alors, je m'interroge un peu sur à quel point la situation dans la direction a un peu bloqué tout ça, la vente du club, enfin de la franchise, le départ de Snyder, tout ça. À quel point ça peut avoir un effet auprès des free agents sur l'envie ou pas de s'engager là-bas. Je m'interroge.
Si elle va être vendue, ça doit leur donner envie en théorie.
Ouais, mais si t'es signé par l'ancien GM, l'ancien président, tu sais jamais avec le changement de régime ce qu'on te promet derrière ou pas, tu vois.
Je te coupe, Raph, mais je pense que ça marche dans les deux sens aussi. Hein. On a entendu Ron Rivera le dire très clairement hein, en disant on attend de voir ce que ça fait et ça peut bloquer. Donc même eux et on le voit, hein, Alain a cité pas beaucoup de personnes qui arrivent. Alors il y a certaines qui sont parties, mais je pense que ça bloque aussi dans l'impulsion qu'on veut donner à une franchise et la vision qu'on peut avoir et donc du coup les free agents qu'on peut signer.
Alors, ceci étant dit, il y a aussi un truc qui joue, c'est qu'ils n'ont que 2 millions de dollars disponibles au moment où on enregistre, ce qui est assez hallucinant vu la tronche de l'effectif. On entend souvent, oui, si vous signez Patrick Mahomes pour 50 millions par an, après vous pouvez plus rien faire. Et bah, figurez-vous que eux, ils ont pas de quarterback, mais ils ont pas de place dans le salary cap non plus. J'étais tellement curieux, parce que quand j'ai vu la place qui restait dans le cap, je me suis dit, mais qui bloque? Et en fait, ils ont Jonathan Allen à 21 millions, Curtis Samuel à 13, Charles Leno à 12, Chase Roulier à 12, Kendall Fuller à 11, Montez Sweat à 11, Terry McLaurin à 11, Chase Young à 10, Logan Thomas à 8-6, Daron Payne à 8-6.
Et en plus, enfin, pardon, mais si je dis pas de bêtises, McLaurin et Chase Young, c'est encore des contrats rookies, donc oui. Le pire, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont devoir leur donner des contrats?
Du coup, ils ont trouvé que c'était une bonne idée de mettre Jacoby Brissett à 8,5.
Comme quoi, enfin, quand t'es free agent, vaut mieux aller à Washington, hein. Tu peux être un joueur moyen et prendre 10 millions. Hein. Franchement, je pense que ça bloque pas.
Donc il y a ce truc là qui joue aussi. Ils pouvaient pas proposer d'énormes contrats ou ils vont pas monter un trade pour un énorme salaire non plus. Bon, donc on est d'accord que a priori bah voilà, ils peuvent se renforcer partout à la draft. Mais c'est quoi le bilan de cette free agency si on part directement d'ailleurs même sur l'appréciation? Je le redis, moi je vois pas de nom qui me fait dire. J'ai pas l'impression qu'ils soient meilleurs ou qu'ils soient plus mauvais. C'est quoi votre sentiment sur ça? Est-ce qu'ils sont meilleurs ou plus mauvais?
Pour moi, il y a un nom qu'on n'a pas cité qui est pas directement lié, c'est Eric Bieniemy. Ça peut être lui qui peut rendre cette équipe un peu meilleure. Si le coordinateur offensif en effet qui arrive de Kansas City, il y a beaucoup de questions autour de ses qualités, Andy Reid, pas Andy Reid. Certes, s'il est annoncé aussi fort qu'il l'est, qu'il a montré pour l'instant du côté de Kansas City, ça peut améliorer cette attaque. Et on le sait, c'est le vrai point d'amélioration. Donc ça peut être le gros point d'interrogation. Après, je vais laisser Raph répondre sur le reste, mais au-delà de ça, je vois pas grand-chose.
Ouais, non, mais t'as raison. Instinctivement, moi, j'étais parti sur un blâme pour une raison, c'est que je pense qu'ils avaient ce qu'il fallait pour... Enfin, je pense qu'ils devaient se démerder pour proposer quelque chose à Lamar Jackson.
Je savais qu'il allait partir là-dessus.
Donc, instinctivement, je serais allé sur le blâme. Maintenant, en reparlant avec vous, entre la situation avec Snyder, le fait d'avoir fait venir Bieniemy pour essayer de passer un cap en attaque... me fait dire que j'accepterais le mauvais.
Mais... oui, j'allais dire. Moi, j'étais sur mauvais ou passable, au sens où ils n'ont rien fait. Donc.
Pareil pour moi, je me suis noté passable ou mauvais, mais c'est vrai que quand on met tout bout à bout, c'est globalement mauvais. J'aime bien Jacoby Brissett en numéro 2, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs quarterbacks remplaçants de cette ligue. Mmh. Mais le numéro 1, c'est Sam Howell. Donc, je suis pas sûr que Jacoby Brissett soit pas le numéro 1 à terme. Et là, c'est plus inquiétant pour moi.
C'est vraiment, chez eux, il y a une sorte de continuité. On disait qu'il y avait la continuité chez les trois autres équipes parce qu'elles ont leur quarterback. Eux, il y a une sorte de continuité dans le non-quarterback aussi qui est fascinante, hein, parce que depuis quelques années, ils arrivent à peu près dans la même situation tous les ans où il y a une sorte de numéro un un peu amovible. On sait pas trop combien de temps il va durer. Et Et il y a quelques bons joueurs autour, c'est ça la frustration, parce que tous les ans, on a cette défense qui sous-performe un peu, avec les Payne, les Sweat, les Chase Young, bon voilà, Young qui joue à peine l'an dernier, mais c'est une drôle de situation, mais c'est vrai que ça peut être que passable, on verra si le coaching les aide à atteindre leur potentiel. On a dit, on passe sur quoi alors du coup, mauvais ?
Ça me paraît
mauvais.
Ouais, pas mal.
Ce sera donc mauvais pour Washington. Je suis descendu trop bas dans mes notes. Mauvais pour Washington. Qu'est-ce qu'on avait mis ? J'ai dit donc compliments pour Philadelphie, félicitations pour Dallas et encouragement pour les Giants. On a eu un petit panel assez complet des notes donc pour la NFC Est. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 605. Je profite de ce premier épisode des débriefs de la Free Agency pour remercier tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee ces dernières semaines. Lemonhead33, Thibaut, Daflox, Dogo, Léo GVS, Grégory, Bense, Yann, Nicolas, Vence, Stéphane, Drain, Bastien88, Cyril, RM, Thomas, Ririk le Géant, Julien Brossillon, Sue, Nak, Tom, H et Soif99. Vous avez l'habitude, pour tous les réseaux sociaux, c'est à TD Actu, sauf Instagram où c'est Touch en Actu en entier, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter et à Elvola pour Lucas. Mais bon, bientôt on les verra plus parce qu'ils veulent pas payer la certification Elon Musk, je crois.
Ah, j'ai jamais eu, donc à moins qu'il dégage tout le monde totalement, mais
je vais bientôt perdre la mienne, donc vous ne me verrez plus non plus parce que je ne vais pas payer non plus. Peut-être pour le site, on ne sait pas, c'est en débat. En tout cas, à très bientôt sur tdactu.com et on se retrouve demain avec la suite évidemment de ces previews. Ciao ciao.
Fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.